Salam, مرحبا بكم في ماشي رجولة, بودكاست اللي كيعاود نهضر في الرجولة. Alors évidemment, comme tous les épisodes, on va parler des masculinités, mais aujourd'hui on va parler d'un sujet sensible, je dirais même douloureux, qui est la culture du viol et des féminicides au Maroc. Et pour en parler, je reçois Camélia Chehab. Camélia, merci d'avoir accepté l'invitation.
Salut Soufiane, merci à toi.
Alors Camélia Chehab, tu es journaliste féministe et tu es derrière l'initiative Féminicide Maroc, qui est une initiative qui lutte contre les crimes faits aux femmes parce qu'elles sont femmes. Et donc justement, on va en parler. Alors ma toute première question, c'est justement par rapport à la culture du viol. De quoi parle-t-on réellement quand on parle de cette culture ?
La culture du viol, c'est l'ensemble des comportements et des pratiques qui vise à banaliser le viol dans la société. Ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être le fait de responsabiliser les femmes, en tout cas d'inverser la culpabilité des femmes qui disent avoir été violées en rejetant la faute sur elles, donc sur la tenue qu'elles portaient, le comportement qu'elles ont eu. Ça peut être aussi le fait de raconter le viol comme un fait divers, ou en tout cas un fait perpétré par des individus la nuit, tard le soir, qui sont un peu dérangés. Et du coup, tout ça, ça produit l'idée que quand une femme est violée, c'est parce qu'elle est sortie un peu trop tard le soir, et qu'elle plus elle portait une jupe, et qu'elle est tombée sur un détraqué, en gros. Et ça, c'est des récits qui sont complètement erronés parce qu'on sait aujourd'hui, on a les statistiques pour dire que les viols, ça arrive le plus souvent dans des endroits familiers et en plus, c'est perpétré par des hommes que la plupart des fois, les femmes connaissent déjà, des hommes qui sont proches d'elles. Et ça peut même être aussi perpétré par le conjoint, chose qui n'est pas reconnue au Maroc. On appelle ça le viol conjugal. Donc il y a plein d'attitudes en fait qui vont minimiser les violences sexuelles. Donc ça peut être ça, ça peut être quoi d'autre? Ça peut être aussi le fait d'accuser la femme de mentir systématiquement, comme si accuser de viol c'était tout le temps un peu suspect. Il y a quand même très peu de femmes qui portent plainte à tort, en tout cas c'est vraiment de l'ordre de l'anecdotique. Et par contre, ce qui n'est pas anecdotique, c'est le fait que les viols sont majoritairement perpétrés par des hommes sur des femmes. Et bon, nous, en tant que... Enfin, les femmes qui portons... Nous, les hommes qui portons un combat féministe, on essaye de remettre un peu les points sur les i et de déconstruire ces clichés autour des violences sexuelles. Mmh.
Et quelles sont les racines, justement, de cette culture? Est-ce que c'est dans l'imaginaire collectif ou il y a des institutions, justement, qui fabriquent ce discours, notamment les médias, l'école, je dirais?
Oui, alors évidemment, les médias reflètent ce que la société produit comme stéréotype et comme image. Et nos institutions le reflètent et aussi le nourrissent. La culture du viol, c'est quelque chose qui est tellement ancré profondément dans les sociétés patriarcales, donc en fait toutes les sociétés, parce que toutes les sociétés sont patriarcales, à quelques exceptions près. Et il y a eu pendant très longtemps, et il y a toujours au Maroc, mais bon, on va reparler du mouvement MeToo, mais en fait il y a une omerta sur la dénonciation des violences sexuelles, qui a été brisée, qui a commencé à se fissurer en 2016-2017 avec l'affaire Harvey Weinstein aux États-Unis, donc ce producteur américain de films qui était accusé de viol par des actrices très connues, et du coup ça a fait boule de neige. Ça a atteint ensuite, on va dire, l'Europe avec des mouvements, enfin le mouvement MeToo, c'est vraiment déferlé comme une vague. Et on a beaucoup dit que c'était une libération de la parole, mais c'est surtout aussi une libération de l'écoute, parce que bon, les femmes ont toujours parlé entre elles de ces accusations-là, mais n'étaient pas franchement prises au sérieux, ou en tout cas, elles n'avaient pas forcément l'espace pour s'exprimer publiquement sur ça. Et donc ce mouvement MeToo, il s'est étalé, ça a été vraiment une déflagration énorme. Et en fait, il y a beaucoup de militantes qui disent que c'est le combat féministe qui s'est déporté sur la sphère de l'intime. C'est-à-dire que vraiment, on a politisé l'intime. Ce dont on ne parlait pas avant, où on jugeait que ce n'était pas forcément lié au combat féministe. Enfin, celle-là, on a commencé vraiment à l'adresser. Maintenant, au Maroc, malheureusement, le mouvement MeToo, il n'a pas pu éclater dans toute sa force.
Mais il y a eu quand même
Il y a eu quand même des
des
choses.
choses, mais ça n'a pas.
Ouais, en fait, il y a eu des choses qui n'ont pas pu vraiment se développer au max. Il y a eu Massactage, il y a eu MeToo Univ, qui sont des choses vraiment dont on peut se féliciter, mais
Ça ne
il y
s'est pas
a.
traduit dans des lois, ça
Non.
n'a pas changé les.
Alors, il y a eu une loi qui a été promulguée en septembre 2018, c'est la loi 103-13, contre les violences faites aux femmes. Et je pense qu'effectivement, ça fait quand même écho à cette nouvelle vague de féminisme qui a éclos dans le monde. C'était un peu la façon, peut-être, du Maroc de répondre à ça, même si en fait la loi 103-13, elle était dans les bacs depuis des années, hein, sauf qu'elle était tout le temps reléguée à d'autres priorités, parce que ça n'a jamais été la priorité de nos gouvernements de protéger les femmes contre les violences au Maroc. Ça, c'est une certitude. Faut dire quand même que la première étude sur les violences faites aux femmes au Maroc, elle a été menée par le HCP en 2019. Donc là, c'est la fameuse étude sur la femme. J'aime pas quand on dit la femme, mais la femme marocaine. Et c'est à peine là qu'on a commencé à comprendre l'ampleur. Enfin, les chiffres, ils sont énormes. Plus d'une femme sur deux a déjà subi une violence fondée sur le sexe. Et du coup, en même temps, on a eu cette loi 103-13 qui reconnaît les violences faites aux femmes comme des violences spécifiques, donc des violences basées sur le genre. Mais c'est une loi qui est très superficielle et qui n'est pas du tout satisfaisante à plein d'égards. Puisque du coup, comme je disais tout à l'heure, elle ne reconnaît pas le viol conjugal, mais ce n'est pas le seul problème. Enfin voilà, on va pas, je ne sais pas si on rentre dans les détails ou pas, mais...
Bah justement, on va consacrer une partie de notre échange au volet légal. Mais tout d'abord, j'aimerais quand même revenir avec toi, puisque j'ai l'occasion de recevoir une journaliste. J'aimerais te poser la question sur la responsabilité, en étant toi-même journaliste, féministe, du coup, la part de responsabilité d'un journaliste pour lutter contre cette culture patriarcale ou du viol plus spécifiquement.
La responsabilité des journalistes dans la lutte contre les violences faites aux femmes est énorme. Et malheureusement, il y a très peu de journalistes qui prennent cette responsabilité au sérieux au Maroc. En fait, déjà, il y a un désintérêt majeur pour les faits de violence au quotidien. Moi, j'ai l'impression que ce problème, il est adressé que deux fois dans l'année. C'est le 8 mars, Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, et le 25 novembre, donc la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Le reste du temps, c'est zéro. Et le reste du temps, bon, c'est pas totalement zéro. Ça va être quelques affaires qui vont éclater parce qu'elles sont... qui vont émouvoir, on va dire. Et
Des sensationnalistes.
voilà, il y a un côté sensationnaliste et ça va éclater un peu aléatoirement. En fait, on a du mal à expliquer pourquoi parfois il y a une affaire qui va émerger, elle va faire un scandale, elle va émouvoir tout le monde va partager sur ses réseaux et tout. Et puis après, enfin, pour toutes les autres, il y aura zéro couverture. Moi, j'ai identifié quelques critères maintenant. C'est que souvent, j'ai l'impression que pour que y ait ces affaires soient couvertes, il faut qu'il y ait un élément sensationnaliste particulier, il faut que le crime soit particulièrement gore ou, comment dire, sordide. Il y a le caractère sordide qui joue énormément, même si elles sont toutes sordides. Enfin, Quand par exemple, enfin, on reparlera des féminicides tout à l'heure, mais en tout cas, le seul féminicide qui a été largement médiatisé ces 3 dernières années, qui a même fait l'objet d'une dépêche de la MAP, c'était une histoire d'une femme coupée en morceaux et mise au frigo. Et en plus, enfin, on reviendra peut-être sur ça après, mais c'est pas une bonne façon de traiter le féminicide que de dire une femme a été trouvée dans un frigo. Ça déshumanise la personne. Mais en gros, il faut qu'on en arrive à un degré de sordine. Et pourquoi? Parce qu'il y a un côté voyeuriste, il y a un côté, tu vois, il y a même une sorte de registre un peu comique quand tu lis un titre du genre une femme a été trouvée coupée. Tu vois, et les gens jouent, enfin les médias jouent un peu sur ça, c'est putaclic pour le dire. Et le deuxième critère pour qu'une affaire soit médiatisée, c'est quand il y a une personne connue dans le truc, qui est mêlée au truc. Donc ça peut être une femme connue, ça peut être un homme connu. Et là, tu peux être sûr qu'il va y avoir plein d'articles. Troisième truc, c'est quand tu as une vidéo particulièrement sordide qui va montrer des faits de violence. Là aussi, ça va faire le tour des réseaux sociaux parce qu'il y a un côté viral, tu vois, genre la vidéo, image. Donc je pense par exemple à une femme qui a été trouvée dans un puits à Zagora l'année dernière. Et on avait, en fait, c'est un touriste qui avait filmé parce qu'il avait trouvé donc la dame. Et la vidéo, elle a fait le tour des réseaux sociaux. Malheureusement, même quand c'est traité, c'est maltraité. Parce que typiquement, si on continue sur cet exemple de la dame dans le puits, personne n'a dit que c'était une tentative de féminicide, alors que c'est quand même évident que là, on a affaire à une tentative de féminicide. On a dit tentative de meurtre, mais non, enfin, ces choses-là portent un nom et c'est important de les nommer.
Justement, on reviendra sur la nomination, mais on va parler du féminicide, du coup, qui est peut-être l'expression la plus sordide, la plus grave. Je ne sais pas comment on peut qualifier cela, mais en tout cas, les féminicides, on n'en parle pas beaucoup. Avant de revenir sur la nomination, j'aimerais te parler de la création de Féminicide Maroc. D'abord, pourquoi? Pour répondre à quel besoin? Et puis, quelle est la nature du travail que tu fais au sein de cette initiative?
Alors en fait, Féminicide Maroc, donc c'est une page Instagram qui recense, enfin qui tente de recenser les meurtres de femmes parce que ce sont des femmes au Maroc. Je l'ai lancée en janvier 2023 parce que j'avais constaté que bah, quand tu googlais Féminicide Maroc, il n'y avait rien qui sortait, quasiment rien. Et que je trouvais ça incroyable qu'en fait on fait comme si y a, les violences faites aux femmes existent, mais elles peuvent pas, c'est comme si elles ne pouvaient pas mener à la mort. Donc j'ai constaté quand même y avait des choses, des campagnes faites autour de la violence conjugale, domestique, mais enfin les coups, les violences psychologiques, les violences économiques, les violences sexuelles peuvent tuer. Et parfois, voilà, les femmes sont tuées parce qu'elles sont des femmes. Donc, je me suis dit, je vais chercher, je vais essayer de fouiller, de trouver des articles. Et en fait, j'ai trouvé pas mal d'articles qui relataient des meurtres de femmes, sans jamais faire le lien avec le continuum des violences sexistes et sexuelles. Donc, c'était vraiment le fait divers pur et simple, avec des titres très racoleur du genre une femme massacrée avec un marteau, souvent avec des pieds de biche, avec des couteaux de cuisine. Et en fait, quand tu lis l'article, donc c'est principalement dans la presse arabophone, quand tu lis l'article, tu te rends compte que il n'y a aucun lien qui est fait avec le fait qu'elle a été tuée par quelqu'un qu'elle connaissait et que. Enfin, je sais pas, en gros, tu es un journaliste, tu vois qu'il y a une femme qui est tuée par son conjoint. Tu sais qu'on vit dans un monde où les violences conjugales existent, elles sont massives. Selon l'étude du HCP, t'as plus de. Il me semble que c'est plus de 50% des femmes qui ont déjà subi des violences conjugales, de tout type. On sait, enfin, il y a des études de l'ONU, enfin, dans le monde entier, qui disent que là, là, les femmes meurent régulièrement sous les coups de leurs conjoints. Il y a des décomptes qui sont faits dans le monde. Enfin, on a tout ce qu'il faut pour comprendre que quand on est face à un meurtre de femme, il faut enquêter, en fait. Il faut aller voir derrière l'apparence du fait divers et essayer de voir, en fait, qui est cette femme qui a été tuée, qui est l'homme qui l'a tuée. Quel était leur lien? Est-ce qu'il y avait des antécédents de violence? Est-ce que cette femme se sentait en danger avant? Est-ce qu'elle avait prévenu des proches? Est-ce qu'elle avait porté plainte? Bon, au Maroc, personne ne porte plainte pour violence conjugale, donc ça va pas trop marcher, mais peut-être qu'elle en avait parlé je sais pas, à ses amis, à ses parents. Et si elle n'en avait pas parlé, est-ce que peut-être ses enfants, ses voisins entendaient des disputes, des cris Est-ce qu'elle l'avait souvent, est-ce qu'elle a porté des traces de
Et ça,
coups?
c'est généralement des informations qu'on trouve
Qu'on trouve
pas,
pas.
okay.
Qu'on
Ni
trouve
chez la
pas.
société, dans la société civile, ni dans les médias.
Alors, en général, les articles qui relatent des meurtres de femmes, ça va être très factuel et très basique. Ça va être les premières infos juste après le crime. Donc, les âges de la victime, l'âge du meurtrier. Le lien qu'il y avait entre eux. Et peut-être, de temps en temps, tu as un témoignage d'un voisin qui dit ouais, j'ai entendu des cris, mais des trucs un peu vagues. Et après, par contre, ce qui va être assez fréquent, c'est que le journaliste, il va se focaliser sur le mobile du meurtrier. Donc, il va dire bah, selon des sources, selon les voisins, quand il a fait un peu l'effort d'aller chercher, il va dire, ben en fait, il y a eu une dispute qui a dégénéré et il a perdu son sang-froid et il a saisi un marteau et il l'a massacré. Et ça, en fait, c'est déjà définir que, enfin, dire que c'est une dispute qui a dégénéré, c'est une grosse euphémisation de la violence parce qu'on a l'impression qu'une dispute, un conflit, c'est mutuel, c'est-à-dire que ils étaient tous les deux en conflit. Donc, il y a une différence entre un conflit et des violences. Donc, déjà, il y a une confusion sur ça. Il y a une différence entre une dispute où les deux se disputent et une situation où il y a une femme qui se fait tabasser. C'est pas la même chose. Et ensuite, ça va dire que ça dégénère en meurtre, ça me paraît quand même assez peu cohérent. Une dispute ne dégénère pas en meurtre. Si on se dispute toi et moi, je vais pas dégénérer, prendre le couteau et te massacrer. Enfin, tu vois. Et en fait, tout participe à minimiser, banaliser le meurtre. Enfin, pour moi, lire ça, que ça dégénère, c'est un peu comme si tu disais, bah, c'est très banal. Quand deux personnes se disputent, ça peut dégénérer en violence. Non, non, non. En fait, c'est pas aussi simple que ça.
Donc finalement, on comprend que même les médias, des fois, ils contribuent finalement à...
Bah, en fait, si tu veux, il y avait même pas mal d'articles dans le passé. Là, je trouve que ça se fait un petit peu moins sur le terme de crime passionnel, drame conjugal. Je le vois moins ces dernières années, mais ça va être toujours présent, cette dimension d'émotionnalisation, de passionnalisation du crime. Ça va être présent dans les tournures de phrases. Donc.
Est-ce qu'on commence déjà à utiliser le mot féminicide?
Non, zéro, jamais.
Ok.
Les seuls. Non, non, jamais. Enfin, c'est extrêmement rare. Et il y a aussi un autre truc, c'est que le journaliste va insister sur les circonstances du crime en disant, j'ai retrouvé plusieurs fois, il soupçonnait sa femme d'infidélité. Il était trop jaloux. Donc, ils se disputaient souvent, et un jour la dispute a dégénéré, et il a pris le couteau. Enfin, tu vois? Donc, ça, c'est placer le curseur sur les raisons, les circonstances atténuantes, avec des guillemets,
Que sur le
du
fait
meurtrier.
lui-même, ouais.
En fait, c'est un peu l'excuser déjà. En tout cas, si le journaliste ne donne que la ligne de défense, le mobile du meurtrier, sans se mettre du point de vue de la victime, il fait pas son travail de façon équilibrée. Là, c'est pas, tu vois, c'est pas, il y a pas de balance en fait. C'est-à-dire que tu vas juste reprendre le narratif du meurtrier et c'est bon, tu le reprends quasiment à ton compte. En tant que journaliste, c'est pas possible de faire ça. Il faut aussi aller voir du point de vue de la défunte qui peut plus s'exprimer. Et justement, parce qu'elle ne peut plus s'exprimer, c'est encore plus important d'aller chercher à recollecter l'histoire. Et ça, il y a plein de façons de le faire. On peut aller voir les proches, on peut aller voir les gens avec qui elle s'était confiée. Mais il n'y a pas ce travail. En fait, il n'y aura même pas de suivi. Parce que la plupart du temps, tu vas avoir un article juste après le meurtre. Et après, on ne va plus jamais en reparler.
Ouais.
C'est vraiment c'est le traitement classique du fait divers. Je ne sais pas. D'ailleurs, les féminicides, si je prends le journal As-Sabah, ils sont classés dans les accidents, la rubrique accidents, entre les accidents de voiture, les trafics de drogue. Il n'y a aucune politisation du féminicide. Ouais.
C'est ça, en fait. C'est vraiment la politisation, finalement, peut-être qui manque. Et Camélia, je voulais te poser la question sur la définition précise de ce que c'est un féminicide. Alors, j'essaie de trouver le mot en darija. Je crois qu'il n'y en a pas. En arabe, on parle de jara im qatl nisa. Mais qu'est-ce qu'un féminicide, en fait ?
Alors, justement, c'est un travail qu'on est en train de faire en ce moment avec des Algériennes et des Tunisiennes. On a constitué un petit collectif pour faire un rapport sur les féminicides au Maghreb. Et on s'est mis d'accord pour utiliser l'expression tartil nisa. Et en fait, pour trouver une définition, on a voulu vraiment adapter la définition à notre contexte. On ne va pas juste prendre la définition du féminicide en Amérique latine ou en Europe ou dans d'autres pays. On a vraiment essayé de voir, de l'adapter. Et donc, en fait, on l'a élargi. Nous, on distingue les féminicides directs et les féminicides indirects. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une société, en fait, où on a un patriarcat de haute intensité qui fait que nos lois, on n'a pas d'égalité de droit entre les hommes et les femmes. Il y a des... Enfin, les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes, et donc forcément, ça produit des privations de liberté, des privations de droits fondées sur le genre. Donc à partir de là, il peut y avoir des féminicides indirects. Ça veut dire quoi ? Féminicide sans meurtre, sans intention de tuer, sans qu'une femme soit tuée. Ça peut être le décès ou le suicide d'une femme parce qu'elle était dans une situation de privation de liberté à cause du fait que c'est une femme. Exemple, une femme qui décède des suites d'un avortement clandestin, moi je les compte comme féminicides indirects parce qu'elles sont mortes, parce qu'elles n'ont pas pu accéder à
un service médical.
Et parce qu'on les prive de la liberté de disposer de leur corps.
Par le cadre légal et juridique.
Ouais. Et un autre exemple fréquent, c'est les suicides de femmes qui se trouvent dans des situations où elles n'ont plus d'issue pour s'en sortir. Des mères célibataires qui sont dans une, enfin, ou alors qui sont enceintes et qui préfèrent se suicider plutôt que d'accoucher et de risquer de déshonorer la famille, etc.
Le bullying, j'imagine, sur Internet aussi.
Oui, atypiquement, ça, il y a déjà eu des cas de cyberharcèlement, chantage avec des photos, et du coup, la fille en vient à se suicider. Et ça, elle n'aurait pas été dans ces situations si ce n'était pas des femmes. Donc, moi, je parle du principe qu'on les classe en féminicide indirect. Ça peut être aussi des femmes qui veulent échapper à un mariage auquel elles n'ont pas envie de... Elles ne consentent pas, mais elles n'ont pas le choix. Et donc ça, c'est les féminicides indirects. Et eux, ils sont très difficiles à quantifier parce que les suicides, déjà, on n'a pas forcément de chiffres là-dessus. Et quand on va voir typiquement dans le journal As-Sabah encore, suicide d'une jeune femme, le journaliste ne va pas donner les raisons. Bon, après, c'est très difficile d'identifier les raisons d'un suicide en général. Mais pareil, ça va être traité comme un fait divers, pas forcément à chercher le contexte et tout. Il y a aussi des suicides qui paraissent pour des suicides, mais qui sont en fait une sorte de maquillage. Et en fait, il y a des circonstances très floues. On est tombé sur un cas il n'y a pas longtemps. Le titre de l'article, c'était « Suicide d'une mère célibataire ». En fait, on a réussi à remonter un peu le fil et avoir au téléphone la mère de la fille. Et c'était pas très clair que c'était que c'était un
Ouais.
suicide.
Parce qu'il y a tout le contexte social et culturel, des fois, qui j'imagine rend le traitement de.
Oui, ou alors une enquête policière qui a été bâclée,
Ok.
pas bien faite, et puis, je sais pas, par manque de preuves et tout, enfin, j'en sais rien, mais il y a quand même ce truc de possibilité de maquiller le truc si vous êtes un peu puissant aussi. Enfin, là, en l'occurrence, c'était pas le cas pour cette affaire, mais.
Mais Camilla, j'aimerais aussi te poser la question sur la définition globale d'un féminicide. Comment on le définit un peu partout dans le monde?
Alors, le féminicide, c'est le décès, le suicide ou le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme et à l'intersection de plusieurs dynamiques d'oppression. Donc, dans notre contexte marocain, moi je distingue féminicide direct et indirect. Direct, c'est le truc auquel on pense le plus vite, c'est le meurtre d'une femme. Et en général, le féminicide, il est associé au féminicide conjugal. Donc en fait, c'est juste un type de féminicide. C'est quand un homme tue sa femme. En fait, on appelle ça un féminicide parce qu'il y a une logique derrière d'appropriation du corps de la femme. C'est comme si la femme, c'était une terre qui possédait et qui s'était appropriée. Et quand, en général, c'est au moment où elle essaye de reprendre le contrôle sur sa vie, de reprendre sa liberté, c'est là que, il va passer à l'acte du féminicide. Donc ça, c'est juste un type. Après, ça peut être aussi un meurtre perpétré par un homme de la famille. Parce que bon, il y a cette dimension de chef de famille, surtout, enfin, ça peut être un frère, ça peut être un père, mais la logique est la même, c'est un crime de propriétaire. Donc, c'est-à-dire, c'est transformer la femme en chose, et si elle ne répond pas aux ordres, enfin, à ce qu'on attend d'elle, là, il va y avoir violence, et le dernier échelon de la violence, c'est le féminicide. Il y a aussi des meurtres, beaucoup de cas où la femme ne connaît, c'est pas forcément son agresseur, son meurtrier. Par exemple, cette année, j'ai recensé pas mal de crimes, de féminicides qui sont intervenus après un viol. Donc une femme qui est violée par un inconnu et qui après se débarrasse d'elle. Ça aussi, ça compte comme féminicide direct. Mais n'empêche que, enfin, ceux que j'arrive à recenser le plus, c'est quand même les féminicides conjugaux. Mais c'est surtout parce que, comme moi, mon recensement, il se fonde sur ce que je trouve dans la presse. C'est ceux qui remontent le plus, en fait. Donc ça, c'est les féminicides directs, les féminicides indirects. Donc c'est tout ce qui est décès ou suicide d'une femme qui était dans une situation d'oppression. Et en fait, c'est important d'avoir une démarche intersectionnelle dans la définition du féminicide parce que il y a des circonstances qui vont surexposer les femmes aux violences et donc au féminicide. Donc ça peut être la couleur de peau, ça peut être l'âge, ça peut être la condition sociale, ça peut être le métier qu'on exerce, est-ce que c'est un métier qui est stigmatisé ou non, ça peut être l'orientation sexuelle, ça peut être plein de choses.
Situation d'handicap,
Handicap,
peut-être.
tout à fait, parce que le handicap, vraiment, les violences sexuelles sur les personnes handicapées, c'est un vrai sujet. Donc voilà, si on essaye d'avoir une définition la plus large possible, ce serait celle-là.
Ouais. Ok. Et tu l'as souligné au début, Camilla, que en fait, les féminicides ont la particularité ou la spécificité d'être des crimes commis par des hommes sur des femmes, des violences faites aux femmes. La question que j'aimerais te poser, elle est un peu difficile dans un sens. Qu'est-ce qui fait qu'un homme est capable de commettre un féminicide? Est-ce que c'est une construction? Est-ce que c'est la condition de l'ordre patriarcal? Ou on peut spécifier quelque chose dans cette situation?
Alors, en fait, donc en gros, ta question c'est qu'est-ce qui fait que un homme en arrive là, c'est
Est-ce qu'il y a un problème dans la masculinité?
ça? Alors, en fait, le féminicide c'est le dernier échelon du continuum des violences sexistes et sexuelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patriarcat, donc la domination masculine, elle s'est imposée dans nos sociétés par la violence et elle s'est maintenue par la violence. Donc ça s'auto-nourrit en fait. Donc ça a commencé par la violence et ça s'est maintenu par la violence à travers les siècles. Donc des violences qui ont plein de formes différentes. Et à l'extrême bout de ce continuum, il y a la mise à mort, enfin le meurtre, l'assassinat. On peut appeler ça de plein de façons possibles. Ça peut être prémédité, ça peut ne pas l'être. Et typiquement, alors si on prend un exemple concret, dans le couple, il y a une logique de crime de propriétaire qui est très étudiée et en fait très connue aujourd'hui. On connaît vraiment la mécanique du féminicide, c'est pour ça que souvent on dit que le féminicide c'est un crime annoncé et qu'on a plein de façons de le prévenir. Et c'est ça en fait le but du recensement des féminicides. C'est pas de faire un décompte macabre de combien de femmes sont mortes. Non, le but c'est de dire on sait comment ça fonctionne, donc on peut les prévenir. Donc en fait, ça commence toujours, c'est toujours un peu le même scénario. Bon, ça peut varier, mais c'est toujours un peu le même scénario. C'est que ça commence par des violences psychologiques, verbales, puis après ça va glisser vers les violences physiques. Enfin, je veux pas non plus dire qu'il y a un schéma classique et que, en gros, je veux pas que les femmes qui nous écoutent se disent « Ah, moi, c'est pas comme ça, du coup, c'est bon, je suis pas dans ce schéma-là. » Ça peut vraiment prendre plusieurs formes différentes, mais je dis ce que j'ai lu le plus, en fait. Genre, c'est un glissement vers la violence et vers la mort, en fait. Et en tout cas, en France, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits là-dessus. C'est au moment dans le contexte de séparation qu'il y a le plus de chances qu'une femme se fasse tuer par son conjoint. Parce qu'il y a cette idée de « elle va m'échapper, donc je reprends le contrôle sur elle et je la tue ». Et parfois se suicide après, hein, d'ailleurs, c'est très fréquent. C'est vraiment une logique de contrôle. En fait, si tu regardes à l'échelle de la société, ce qui se produit à l'échelle de la société, c'est des institutions qui essayent de contrôler les femmes en leur retirant des droits, en donnant plus de droits à un groupe qu'à un autre, donc aux hommes qu'aux femmes. Et en fait, c'est ce qui peut se répercuter dans la petite cellule du couple, c'est un contrôle coercitif
isolé
de l'homme sur les femmes, sur sa femme. En fait, c'est son objet. L'idée, c'est ça. C'est souvent, quand il y a un livre qui m'avait beaucoup marquée sur les féminicides qui s'appelle Nos absentes de Lorraine Descartes, une journaliste française, qui explique que il y avait le cas d'une femme où ses amis, quand elle est morte, ses amis disaient son mari en avait fait sa chose. Donc c'est-à-dire qu'elle pouvait pas, elle était tout le temps contrôlée, il était tout le temps en train de vérifier ce qu'elle faisait, où elle était, il lui interdisait plein de choses et elle vivait dans cette terreur et cette emprise. À un point où en fait on peut même plus penser par soi-même, on est complètement comment dire. Tout ce matin j'écoutais une émission, elle disait il l'a lavé d'elle-même, donc il a aspiré en fait tout ce qui faisait sa personnalité. Ça, l'emprise. Donc ça, c'est un truc qui est assez étudié dans les féminicides conjugaux, mais pour répondre à ta question, ce qui fait qu'est-ce qui fait qu'on en arrive au meurtre Souvent, les femmes donnent l'alerte, enfin, essayent de s'enfuir, elles peuvent porter plainte, mais ne trouvent pas forcément de protection. Mais là, je parle trop d'un point de vue français, en fait, parce que c'est tellement pas pareil au Maroc.
Je pense que c'est pareil, non? Parce qu'il n'y a pas un cadre juridique aussi au Maroc.
Mais en fait, je ne sais pas comment expliquer ça, mais genre, en France, elles portent plainte, elles vont déposer des mains courantes au commissariat et tout. On leur donne même des téléphones grand danger et tout. Enfin, il y a pas mal de trucs qui existent et quand même, elles crèvent quand même, tu vois.
Au Maroc, normalement, en tout cas dans les grandes villes, tu as un service de lutte contre les violences faites aux femmes, mais qui ne sert pas à grand-chose parce que généralement,
Au Maroc, il n'y a que 10% des femmes victimes de violences conjugales qui portent plainte. 10%. Donc, quand une femme est tuée, il y a quand même très peu de chances de trouver des plaintes précédentes au meurtre, tu vois.
Parce que déjà, est-ce qu'elle va ou pas ? Est-ce qu'elle...
Parce qu'elles n'y vont pas. Et pourquoi elles n'y vont pas ? Ça, c'est important. Parce qu'il est admis qu'un homme ait le droit de frapper sa femme. Il y a eu un sondage récent. Enfin, il y a plein de sondages sur ça, sur est-ce que vous trouvez ça normal qu'une femme puisse être frappée par son mari. Et je crois que c'est entre 25 et 35% des gens qui répondent « oui, c'est normal dans certains contextes ». Donc en gros, si elle l'a mérité, c'est normal de frapper. Donc en fait, si c'est pour aller porter plainte et qu'on vous renvoie chez vous en mode « bon ben, on peut rien faire pour toi »,
ouais.
Les femmes ne sont pas encouragées en fait à porter plainte.
Et peut-être cette mentalité, l'expression de tout ce qui n'est pas fait justement pour lutter contre les violences faites aux femmes. C'est-à-dire quand on n'éduque pas à l'école sur ça, quand on éduque un homme finalement à la possibilité ou la légitimité de...
Moi je veux bien croire à l'éducation, mais franchement ça prend trop de temps. Donc il y a plein d'autres trucs qu'on peut faire pour aller plus vite. Et qui ont commencé un peu à être faits. Dans la loi 103-13, il était prévu de créer des cellules dans les commissariats et dans les tribunaux pour accueillir les femmes en situation de violence. Apparemment, ça a été fait, mais est-ce que c'est utilisé par les femmes ?
En fait, ça a de l'impact.
Il y a toujours un problème d'application. Et du coup, c'est insuffisant. Ça veut dire qu'on ne fait pas bien les choses.
Pour revenir à la question du socle juridique, alors tu as parlé de la loi 103-13, est-ce qu'il y a d'autres lois qui permettent de prévenir un féminicide, en tout cas porter plainte contre une violence faite aux femmes ?
Alors, typiquement, dans la loi 103-13, normalement, elle est censée englober tous les dispositifs de lutte contre les violences faites aux femmes spécifiquement. Il n'y a pas d'autres textes qui parlent de violences faites aux femmes. Après, ça va être le code pénal, ça va être... Il y a d'autres articles qui peuvent... Enfin, il y a l'article sur le viol, par exemple, mais c'est la loi 103-13 qui est censée vraiment attaquer le problème. Le problème dans la loi 103-13, c'est que la violence conjugale, elle n'est pas définie en tant que telle. C'est-à-dire qu'on va définir les violences faites aux femmes, donc déjà ça c'est pas mal. On va définir la violence économique, physique, sexuelle et psychologique. Et on va dire la peine va être portée à, enfin doublée, musclée, si la violence est perpétrée par un conjoint par exemple, ou un membre de la famille. Mais on va pas dire, voilà, les violences conjugales, c'est des violences perpétré par le conjoint sur sa femme. Donc, pour moi, il manque cette définition. Et d'ailleurs, du coup, c'est pour ça qu'il y a cette impensée du viol conjugal. Donc, cette loi 103-13, de toute façon, je pense qu'elle a été faite pour, comment dire, occuper un vide. Il fallait l'occuper, tu vois. Mais ça a été mal ressorti. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avec la réforme de la Moudawana, la nouvelle, il est question aussi de refaire cette loi 103-13, de la changer, et évidemment de réformer aussi le code pénal.
Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il manque à cette loi ? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus ? Ou qu'est-ce qu'il faut changer ?
Alors, en fait, oui. Il y a la possibilité notamment de... En fait, de quoi les femmes ont besoin quand elles sont en situation... quand elles vivent des violences chez elles, il faut qu'elles quittent leur foyer. Et actuellement, enfin, il faut qu'elles aient où aller. Et la loi 103-13 ne met pas l'accent sur la prise en charge des femmes. Elle va mettre l'accent sur... des peines un peu plus lourdes pour les agresseurs. En fait, elle va chercher un peu à muscler en disant « Ouais, on ne tolère pas, on sanctionne, mais ça ne sert à rien de muscler les peines si Y a les pas un on n'encourage pas les femmes à porter plainte, en fait. Oui, voilà, on manque d'une vision vraiment de bout en bout de la chaîne.
Peut-être moins punitive aussi, qui ne se focalise pas que sur la punition, mais aussi sur tout ce qu'on pourrait faire pour éviter.
Oui, la punition, c'est important, mais il faut aussi pouvoir prendre en charge les femmes. Et donc, ce qu'on aurait aimé, c'est que le gouvernement mette de l'argent pour construire des refuges. Enfin, il y a des refuges, mais ils sont très, très peu nombreux. Ils sont gérés par la société civile, par les associations, sur leur propre denier. Avec des elles peuvent être subventionnées, mais les subventions sont très insuffisantes. Elles le disent toutes, les associations, que ce n'est pas assez. Et il n'y a pas assez de place pour accueillir les femmes. Et il est important aussi que l'agresseur ne puisse plus s'approcher de sa femme, de sa proie. Pour ça, on peut donner une ordonnance d'éloignement. Mais au Maroc, pour avoir l'ordonnance d'éloignement, il faut que tu portes plainte. Donc ça fait une barrière, en fait. Donc si tu veux qu'il y ait un dispositif d'éloignement, il faut que tu portes plainte contre ton mari. Mais déjà, si ça, c'est déjà une barrière pour toi, ben du coup, il faut que tu te démerdes, faut que tu te débrouilles toute seule. C'est pas le dispositif existe, mais il n'est pas réaliste compte tenu des comportements des femmes et des barrières psychologiques qu'elles ont à avoir recours à la police et à la justice. Donc, il faudrait que cette ordonnance d'éloignement elle soit beaucoup plus facile à faire, à demander. Et ça passe par la formation aussi de la police à ces sujets-là. Mais ça, normalement, ça a été fait, mais j'en sais rien. Les gouvernements marocains successifs, que ce soit du temps où on avait le PJD au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, avec le RNI et la coalition, là, c'est des gouvernements qui font beaucoup d'effets d'annonce, en fait. Ils vont te dire, on a fait une super loi contre les VSS, mais après, on n'a pas de suivi sur l'application. Enfin, est-ce que la loi depuis 2018, est-ce qu'on peut avoir un bilan de... Enfin, tu vois, oui, je crois que ça a légèrement augmenté le nombre de plaintes, mais est-ce que les femmes sont mieux protégées?
C'est une bonne question à poser au gouvernement, justement.
Mais vraiment, ils s'en foutent, c'est la dernière de leurs priorités, c'est ça, quoi. Moi, ça m'exaspère, en fait, qu'on produise des lois qui portent des noms aussi grandiloquents que « Loi sur les violences faites aux femmes ». Et au fond, le contenu est très faible. Et en plus, on doit dire merci. Merci de nous avoir donné une loi alors qu'on nous donne des miettes. Et question budget, parce qu'en fait, comment protéger les femmes? Il faut de l'argent. Il faut donner de l'argent aux associations. Il faut ouvrir des centres d'accueil. Il faut leur fournir un accompagnement psychologique quand elles ont vécu des violences. Il faut de l'argent pour accueillir aussi leurs enfants, parce qu'elles ne vont pas partir sans leurs enfants. Moi, je trouve que c'est à combien d'argent on met, quel budget on met dans la défense des femmes, qu'on voit si un gouvernement est engagé sur ce sujet. Ben là, on voit qu'il ne l'est pas.
Camélia, on va commencer à atterrir un petit peu et... Le sujet est tellement important, sérieux, mais douloureux aussi. Mais j'aimerais quand même consacrer la dernière partie de cet épisode, comme pour tous les épisodes, à l'espoir. Et puis, essayer de penser avec toi ce que serait un monde ou un Maroc, ce que serait un Maroc sans violence, sans féminicide, sans culture du viol. Comment tu l'imagines, ce monde marocain?
Comment le changement peut advenir? Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait plus de femmes au pouvoir et qu'on écoute plus les femmes et leurs besoins plutôt que de parler à leur place. Il faut consacrer des budgets et faire un plan interministériel, en fait, de défense contre les violences faites aux femmes, parce que c'est pas un sujet que... du ministère de l'Intérieur, c'est pas un sujet que de sécurité, c'est aussi un sujet de société, et enfin de justice, de sécurité, d'éducation, comme tu l'as dit. Donc, il faut en fait une vision vraiment
transversale,
interministérielle. Mmh. Tous les ministères doivent mettre la main à la pâte et doivent poser un budget pour dans un but commun, qui est d'éliminer la violence faite aux femmes. Mais la première étape pour le faire, c'est déjà reconnaître. Bon, ça, ils l'ont relativement reconnu que ça existait. Maintenant, on a des chiffres concrets. Mais il faut pas que ce soit, il faut que ce soit une lutte permanente, c'est pas juste une lutte ponctuelle de temps en temps on va sortir une loi, faire un effet d'annonce. Il faut que ce soit une lutte perpétuelle et que ce soit monitoré, genre que l'impact des mesures prises soit mesuré. Et si on arrive à un monde sans violence, sans patriarcat, je pense que ce sera un monde où il y aura beaucoup plus de femmes au pouvoir, en fait. Ce sont les hommes qui perpétuent qui produisent la violence, en fait. C'est statistique, hein.
Ouais, du coup, tout ce qui pourrait être fait aussi pour éduquer, j'ai pas envie de dire sensibiliser, mais peut-être éduquer pour changer carrément les comportements. Camille, il y avait aussi autre chose. Tu as parlé de l'Amérique latine. Je sais que c'est une région du monde où il y a le plus de féminicides, mais c'est aussi une région du monde où il y a plus de réflexions féministes sur comment faire face aux crimes faits aux femmes. Est-ce qu'il y a des expériences à tirer de
ces écoles féministes ? Oui, l'Espagne, par exemple, ils ont... Le mot féminicide, il a émergé... Enfin, il a pris beaucoup d'ampleur en premier en Amérique latine. Parce qu'il y avait énormément de féminicides commis dans le cadre du narcotrafic, notamment dans la ville de Ciudad Juárez, qui est connue pour ça. Et ce sujet, il a été porté par des femmes qui ont risqué leur vie d'ailleurs pour essayer de faire des politiques publiques de lutte contre les violences. Donc effectivement, là-bas, le féminicide, c'est devenu quelque chose de... un objet de lutte vraiment étatique, quoi. En Espagne aussi, c'est un bon exemple, parce qu'il y a une vraie prise de conscience, je pense, dans les fins 2018-2019, où vraiment le féminicide aussi est devenu une vraie priorité. Et on voit que quand les gouvernements mettent ça comme priorité, il y a des vrais effets. Ils ont réussi à réduire... considérablement le nombre de féminicides en Espagne ces dernières années, parce que en fait ils ont mis le paquet sur les mesures, et ça coûte de l'argent, mais ils ont assumé de cette démarche. Donc oui, bien sûr, il y a plein d'enseignements qu'on peut tirer. Il y a en Belgique aussi, là récemment, l'année dernière, ils ont créé une loi sur les féminicides. Il y a quand même assez peu de pays dans le monde où les féminicides sont vraiment reconnus dans la loi. Donc, en Amérique latine, il y a plusieurs pays. Et là, donc, il y a la Belgique. Et ils vont faire un décompte chaque année officiel des féminicides à l'échelle de l'État. Alors qu'il y a quand même encore beaucoup de pays dans le monde où c'est une démarche de la société civile ou journalistique... Et même au Maghreb, ça bouge. Enfin, moi-même, avant que je lance la page, je me suis inspirée de la page Féminicide Algérie, qui est tenue par des militantes qui font un décompte depuis 2019 ou 2020, je ne sais plus. Et en Tunisie aussi, maintenant il y a un décompte aussi, militant, pas officiel, mais militant. Donc les choses bougent. Et depuis que j'ai lancé la page aussi, je dis un truc positif, depuis que j'ai lancé la page, il y a pas mal de médias qui se sont intéressés au truc. Donc ça fait un peu d'émulation autour du terme.
Bon, merci Camilia. Bon, le sujet est malheureusement pas joyeux, très difficile à aborder, mais je suis content vraiment de pouvoir l'aborder avec toi et de parler de toutes ces questions. J'ai une toute dernière question à te poser, que j'ai l'habitude de poser à tous mes invités dans Meshi Rojula. Qu'est-ce que ça veut dire Meshi Rojula pour toi ? Comment ça résonne chez toi ?
Bah, c'est remettre en question la masculinité. C'est remettre en question en fait les normes. En fait, c'est une expression qui va exactement pointer du doigt tout ce qui est problématique dans comment on considère la masculinité et la féminité. C'est une expression qui cristallise la crispation qu'il y a autour de la masculinité et cette façon qu'ont les hommes de toujours essayer de se tester entre eux pour savoir qui est le plus viril, qui est le plus masculin. Et donc ça montre à quel point il est nécessaire de déconstruire ces normes et de faire exploser en fait ces hiérarchies qui existent entre les hommes, puisqu'il y a une masculinité hégémonique et des masculinités considérées comme secondaires, et même les hommes entre eux se font énormément souffrir à cause de ces hiérarchies sociales. Normé à l'intersection de plein d'autres facteurs. Donc, il faut absolument adresser ce problème et c'est pas. La masculinité, c'est lié évidemment à l'idée qu'on se fait d'un homme, mais c'est aussi lié à l'idée qu'on se fait d'une femme parce que c'est quelque chose qu'on considère encore comme binaire. Donc voilà, je suis contente qu'il existe aujourd'hui des initiatives comme la tienne qui, enfin même que tu es un peu le seul, hein, franchement, qui ose parler de ça et déconstruire ça et dire que non, enfin, ces conceptions font souffrir. Et c'est pas juste une question de masculinité, c'est forcément aussi une question de qu'est-ce que c'est la féminité. Et en fait, qu'est-ce que c'est le genre et qu'est-ce que c'est. Comment ça impacte nos sociétés, comment on socialise, comment on vit au quotidien et comment ça nous pèse en fait au quotidien de devoir suivre ces injonctions à être comme ci ou être comme ça à cause de notre genre, quoi.
Merci beaucoup Camilla, merci d'être venue.
Merci à toi de m'avoir invité et bravo pour ce podcast.